Quand on néglige sa jeunesse, c'est dans le fond qu'on tombe en dépression et qu'on est incapable de préparer son avenir.
Ça ne veut plus rien dire, Lucien. C'est des merdeux, des cons.
Le jeune est tourné vers l'avenir. Mais aujourd'hui, l'avenir ne se tourne plus vers le jeune.
Univox, le rendez-vous du monde étudiant sur Radio Campus.
Le 19 juin, à Clermont-Ferrand, s'est tenue la marche Pride. Vous savez déjà qu'il s'agit d'une manif pour les droits LGBTQ+. Mais c'est aussi un moment de rassemblement, de cohésion, de rencontre. C'est une manif, mais c'est aussi une fête. Les vieux viennent pour soutenir la communauté dans laquelle ils ont toujours vécu, et les jeunes viennent pour s'assumer, découvrir la communauté, le militantisme et faire des rencontres. Je suis donc allé sur place le 19 juin pour demander aux manifestants et manifestantes ce que la Pride représentait pour elles.
Pour moi, la Pride, c'est juste une manifestation cool où on peut juste être nous-mêmes, crier sans être haineux. Et à crier nos revendications en même temps.
Pour moi, c'est comme une famille.
Les gens sont vraiment trop sympas.
C'est bonne ambiance.
C'est incroyable, il y a tout le monde qui est bienveillant.
Bonne ambiance en général.
Il y a une bulle de bienveillance. Enfin, je trouve ça génial.
Installez-vous bien, hydratez-vous. Si vous hydratez pas, on s'en occupera. Non, je déconne.
Pride, c'est comme la première fois où on m'a appelé monsieur et que j'avais le cœur qui battait et le cerveau plein de dopamine, sauf que c'est fois 100 et c'est au milieu de plein de gens qui ressentent la même chose que moi.
Pour moi, la Pride, c'est le moment de l'année où on peut être queer sans avoir à le cacher.
Enfin, c'est un moyen de m'exprimer sur ma sexualité et j'ai envie vraiment de l'assumer.
C'était, pour moi, je pense que c'est un symbole très fort, quoi.
Ça fait surtout du bien de se sentir soutenu, qu'il y ait du monde qui soit comme nous un peu partout.
Du coup, je suis bisexuel, donc il y a un peu ce côté-là où c'est pour moi. Mais surtout parce que j'ai beaucoup d'amis dans mon entourage qui sont soit trans, soit gays, enfin plein de choses. J'ai plein d'amis queer et c'est pour représenter tout ça.
Ouais, on peut montrer à tout le monde qu'on est là parce qu'on est fiers de ce qu'on est et personne va nous défoncer la gueule parce qu'on est bien plus fort qu'eux.
Ça nous permet d'être nous-mêmes, de vivre ensemble comme le patriarcat nous l'interdit. Et nique le patriarcat, on s'en bat les couilles.
On a l'impression d'être dans un monde à part parce que le patriarcat, la société, c'est que les PD, les homos, c'est contre nature. Et ben vous savez quoi, ben, on est fiers d'être contre nature, putain.
Tous les personnes ayant déjà fait une Pride dans leur vie vous diront que ça part très, très souvent en soirée après la manifestation. Après l'effort, le réconfort. Après la lutte, la fête. Mais ce serait inexact de réduire la fête à un moment de détente qui suit une manifestation. Au contraire, elle fait partie intégrante du mouvement au même titre que la manifestation pour les droits. Pourquoi ? Eh bien, nous allons le disséquer dans cet Univox.
Univox.
Premièrement, Storytime. Samuel Delaney, né en 1942, est un auteur de science-fiction afro-américain. Il a découvert son homosexualité lors de son adolescence, bien avant les émeutes de Stonewall et la naissance de ce qu'on connaît aujourd'hui comme le mouvement de Pride. Dans son autobiographie, il raconte l'histoire d'une descente de police dans une aire de repos d'autoroute où de jeunes hommes gays se retrouvaient pour explorer leur attirance et sexualité en secret. Imaginez la scène. Caché entre les camions ou derrière des arbres, chacun pouvait voir les hommes proches de lui, mais aucun ne pouvait avoir d'aperçu de tout le monde qui était présent. Or, pendant la descente de police, Delaney se souvient avoir pu voir la totalité de la foule se sauver de l'aire d'autoroute. Ce qui l'a marqué, c'était le nombre de personnes présentes, plus de 100. Contraste total avec le nombre d'arrestations ce soir-là, donc du nombre d'hommes gays recensés par la police, ainsi que l'impression, renforcée par les médias de l'époque, que les hommes gays étaient peu nombreux, isolés et marginaux. Des histoires comme celle-ci démontrent comme il est important pour un groupe marginalisé de pouvoir se rencontrer et se rendre compte de leur nombre, car la visibilité permet l'échange, la solidarité et la cohésion. Pour parler de ces lieux de cohésion de la communauté LGBT de nos jours, j'ai invité deux assos locales dont c'est le travail. J'ai nommé Queer Auvergne et le Lip Sync Challenge.
Alors, c'est une association qui existe depuis maintenant 22 ans. C'est une association d'accueil et d'écoute qui propose d'autres activités telles que des karaokés, du self-défense. Avant le Covid, on avait 3 permanences mensuelles et une auberge espagnole, dont une sans hommes cis et une autre uniquement trans, queer, intersexe et en questionnement. Beaucoup de personnes trans viennent nous voir pour savoir quel médecin aller voir, pour éviter justement tous les médecins transphobes qu'il peut y avoir ici comme n'importe où ailleurs en France. Les publics sont assez variés en fait. Ça peut être du mec gay qui va subir des discriminations au travail, à la personne trans qui parfois est mineure, qui sait pas trop par où commencer, qui sait pas où t'es auprès de ses parents. Et en ce qui concerne l'outing, il nous est arrivé de recevoir des personnes avec leurs parents pour faire des médiations familiales quand c'était nécessaire.
Univox.
Alors moi je m'appelle Théo.
Bah moi c'est Zuc.
Et moi c'est Sarah.
Et donc vous venez tous du Lip Sync Challenge. Est-ce que vous pouvez présenter d'abord le concept de Lip Sync?
Le concept c'est du playback, donc c'est prendre des musiques et de faire semblant de chanter par-dessus. Ça c'est le concept de base. Après du coup le Lip Sync Challenge, c'est un petit collectif qui a été créé donc au premier confinement, qui a voulu lancer une compète de lip-sync sur internet, donc sur Facebook. Et du coup, il y a quelques personnes qui ont participé donc à ce qu'on appelle la première saison du Lip-sync Challenge. Et de fil en aiguille, ça a commencé à prendre un peu d'ampleur ce truc. Et donc, on a lancé une deuxième saison, donc pas peu de temps après la première saison. La deuxième saison, ça a encore pris plus d'ampleur. Là, on a commencé à avoir des candidats et des candidates d'un peu d'ailleurs de Clermont, parce qu'au début, on était vachement entre copaines, quoi. Et la troisième saison a été lancée en septembre, et là, ça a explosé. Du coup, on a commencé à avoir vraiment plein d'abonnés et de gens qui suivaient le truc. Et du coup, à partir de ce moment-là, on s'est dit « Eh, mais ce serait super cool de faire une compétition, mais en vrai !» Et l'idée de base, ouais, c'était compétition... bienveillante, tu vois, enfin, c'était pas non plus la méga compète, il y avait pas grand chose à gagner, quoi.
C'est pas la même ambiance que dans RuPaul's Drag Race où tu vas littéralement lip-sync for your life.
Et en même temps, on essayait de mettre un petit enjeu comme ça. On avait créé un jury dont je faisais partie avec trois amis, et du coup sur la dernière saison, ce qui a été aussi le petit plus, on faisait venir des guests. Du coup je contactais des personnalités, des artistes comme les chanteuses de LEJ, le danseur Johan Tété qui est chorégraphe pour les Energy Music Awards, enfin voilà, plein de personnalités, des personnalités locales aussi comme Illustre, comme John, voilà. Et du coup ça rajoutait une espèce de truc de oh waouh, donc je vais être jugé par telle personne, un peu chaud de télé-réalité en fait.
Ça rajoute à ce côté un peu, il y a un imaginaire autour du lip-sync.
Ouais, carrément.
En fait ouais, c'est le truc, c'est que là comme ça faire du playback, on a l'impression que c'est pas tellement une discipline, parce que enfin je pense que c'est un truc en plus qu'on a tous fait au moins une fois dans sa douche. Mais du coup, après, ce qu'on a essayé d'ajouter à ça, c'est de la mise en scène, vraiment de la synchronisation labiale, quoi. Genre de vraiment capter quand est-ce qu'il y a des respirations dans la musique, pour vraiment, en fait, qu'on donne l'impression que c'est nous qui sommes en train de chanter, quoi.
Et du coup ça appuie ce côté performance, plus grand que nature.
C'est carrément ça. Après voilà, sur la toute base on était vraiment sur de la réalisation vidéo. Pendant longtemps on est resté sur ça, essayer d'élaborer vraiment des clips
propres. Là, c'est par exemple sur le clip d'Ariel Styles que tu as fait, tu as des gens qui n'ont pas capté que c'était pas toi qui chantais.
Réalisé par Fleur d'Ananas, qui est notre vidéaste officielle et qui déchire de ouf, qui est trop forte. Et on bosse aussi avec T'Imagine, qui a réalisé le teaser de notre première soirée live, qu'on a réalisé au Photomat il y a 2 semaines et demie, mis en réel en fait toute la communauté queer qui manque cruellement de lieux de représentation, de lieux où tu peux être bien en fait. Et on a réussi à créer un safe space pour tous. On était à cheval sur plein de choses, et en fait tout s'est hyper bien déroulé sur un dance floor qui était en feu. Il n'y a eu aucun moment de gêne, tout s'est hyper bien passé, et c'est beau de voir la commu briller comme ça.
On veut que des soirées comme ça.
Et je trouve que, du coup, pour souligner cette importance de la fête, moi, c'est vraiment de la fête, de la performance, du spectacle, du show et tout ça, j'inclus vraiment tout ça. C'est pour moi aussi un moyen politique, une force politique de représentation aussi forte que des manifestations avec des slogans. Et je trouve que c'est des moments, en créant ces safe spaces, en créant des spectacles qui montrent des choses. Là, la communauté se fédère, tu dégages des choses qui unissent et c'est trop bien. Quoi.
Tu fais de la représentation, enfin, c'est ultra important la représentation, surtout dans cette communauté-là qui, comme disait Théo, a peut-être parfois du mal à Clermont-Ferrand de se retrouver, tu vois, dans les événements, dans les trucs qui se passent et tout. Du coup, c'est super important. Mais je pense que cette soirée, elle a un peu dépassé nos intentions sur pas mal de choses. C'est-à-dire que, du coup, nous, on se positionne, tu vois, on se positionne queer, on se positionne safe, on a envie de faire des soirées vraiment cool et tout. Mais là, je pense qu'on s'attendait pas du tout à ce que les gens le vivent aussi bien et aussi fort, en fait. On a vraiment eu des retours de gens, genre, mais c'est merci, genre, meilleure soirée de ma vie, tu vois. Et des trucs, à un moment sur le dance floor, quand même, moi, je trouve que ça illustre. En tant que nana, en tout cas, je trouve que ça illustre vraiment le côté bienveillant de cette soirée. C'est que sur le dance floor, il y a trois nanas qui se sont mis topless, tu vois. Et genre, pour moi, ça, c'est personne normal. Et elles se sont senties assez à l'aise, sur un dance floor pour faire ça. Et moi, ça m'a trop émerveillée de voir ça, parce que je me suis dit, ok, bon, en fait, on a vraiment réussi un truc là. Un peu au-delà de nos espérances, je pense.
C'est un truc de libération de ouf d'avoir un espace tellement safe que le sein d'une personne née femme est totalement désexualisé, de la même manière que les tétons d'une personne née homme.
Et puis là aussi, je vais reparler de la performance qu'on a fait à la Pride, où c'était... il y a eu une connexion, tu vois, avec les... D'habitude, on a fait ça à des marches colorées, les marches pour la culture... une marche pour le climat où les gens ont toujours été ultra chauds et ultra contents. Mais particulièrement sur cette performance de la Pride, il y a eu une espèce de fusion avec les gens où tu voyais que tout le monde était à donf dès la troisième seconde. C'était genre... Et c'était hyper fou et ça nous a donné une énergie de dingue. Et tu voyais... Enfin, il y a même plein de gens qui sont venus nous voir en disant « Merci, putain, d'avoir fait ça. C'était beau, ça donne envie. » Enfin, tout ce que ça crée chez les gens, je trouve ça incroyable, quoi. Donc, continuons à faire la fête et à faire des performances comme ça. Mais on va continuer à diffuser cette vibe queer.
On arrive.
Moi, je pense qu'on a vraiment ce truc de pouvoir toucher un max de personnes avec ce qu'on fait. Et du coup, c'est cool de se dire qu'on peut avoir un impact quand même sur d'autres personnes. Parce qu'on a capté qu'on avait un public queer, tu vois, et qui est ultra emballé par ce qu'on fait.
Ouais.
Mais en fait, on a aussi capté qu'on peut toucher un panel de gens assez large, en fait, avec ce truc. C'est cool. Seven days a week, wet ass pussy, make that pull out game weak. Yeah, 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 yeah. You fucking with some wet ass pussy. Bring a bucket and a mop for this wet ass pussy. Give me everything you got for this wet ass pussy. Beat it up, nigga, catch a charge. Extra large and extra hard. Put this pussy right in your face. Swipe your nose like a credit card. Hop on top, I wanna ride. I do a giggle, rollin' inside. Spit in my mouth, look in my eyes. This pussy is wet, come take a dive. Tie me up like I'm surprised. That's roleplay, I wear disguise. I want you to park that Big Mac truck right in this little garage. Make it cream, make me scream. Out in public, make a scene. I don't cook, I don't clean, but let me tell you, I got this ring. Gobble me, swallow me, drip down inside of me. Quick jump out for you, let it get inside of me. I tell him where to put it, never tell him where I'm about to be. I run down on him before I have a nigga running me. Talk your shit, bite your lip. Ask for a call while you ride that dick. You really ain't never got him fucking for a thing. He already made his mind up before he came. Now get your boots, hang your coat for this wet ass pussy. He bought a phone just for pictures of this wet ass pussy. Pay my tuition just to kiss me on this wet ass pussy. Now make it rain if you wanna see.
Univox, le rendez-vous du monde étudiant sur Radio Campus.
La fête dans le milieu queer est un safe space où on peut s'assumer et donc par extension, elle peut être un outil politique. L'un des meilleurs exemples, c'est le drag. J'ai eu la chance d'interviewer Mathéo qui fait du drag sous le personnage d'Ophélia Delupin.
Alors le drag, ça date d'il y a maintenant quelques décennies. On peut considérer que ça date de plusieurs siècles parce que ça vient de Dress as a Girl, du théâtre shakespearien, qui nommait les hommes qui se grimaient en femmes pour jouer au théâtre. Du drag, c'est esthétique et c'est une personnalité. esthétique dans la mesure où il y a toujours il y a plus ou moins une question de se grimer, de se créer un personnage, une identité visuelle, mais aussi une nouvelle personnalité qui s'extrait de notre personnalité d'origine. Quand on va dire drag queen, c'est que peu importe la personne qui le fait, on se dirige vers une identité féminine, accentuée ou pas, et qui performe quelque chose. C'est de l'ordre de la performance, en fait, la performance de genre. C'est-à-dire s'approprier des codes, se créer une identité qui va vers, donc quand on dit drag queen, vers quelque chose de féminin, mais on peut aussi avoir du drag king, vers quelque chose des stéréotypes masculins. Et on a aussi ce qu'on appelle le drag queer, un drag qui est non-genré et qui est un peu plus disparate dans un spectre du genre et qui est plus là pour créer des esthétiques. Alors je fais du drag depuis 8 mois maintenant, je crois, un truc comme ça. C'est assez récent. Après, c'est un milieu auquel je m'intéresse depuis peut-être 3 ans, où j'ai eu diverses portes d'entrée, mais notamment RuPaul's Drag Race, forcément sur Netflix. Mais du coup, j'ai pris mon temps avant d'aller faire moi-même quelque chose. J'avais besoin de voir d'abord toutes les facettes de ce monde-là. Je pense que ce qui m'a poussé à faire du drag, c'est avant tout le côté politique. Il y avait aussi tout le côté où, en tant que mec cis dans notre société, j'avais pas ce droit, entre guillemets, à me maquiller, que j'avais envie de le faire.
Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus de ce personnage d'Ophélia ?
Alors Ophélia, en fait, elle est en référence à tout d'abord un tableau qui m'a beaucoup inspiré pendant mes 3 années aux Beaux-Arts, de John Everett Millais, qui est la représentation du coup d'Ophélia, qui est un personnage d'Hamlet. Personnage un peu secondaire qui meurt de folie parce que son père et son amant se battent son amour, et donc c'est un symbole féministe énorme, quoi, de la toxicité masculine qui, du coup, je trouve que le drag se met vraiment en contre-pied de cette toxicité masculine, donc je trouvais que le personnage était représentait bien ça. Et le tableau qui a été peint a posteriori de la scène, elle est dans un ruisseau entouré de fleurs et en fait j'imagine qu'elle est morte, et j'imagine qu'elle glisse dans un marécage, et dans ce marécage il y a plein de choses qui macèrent, c'est un espace d'hybridation énorme, et elle se recrée, elle se retransforme, sa peau se recouvre, quoi, et elle devient une autre forme d'elle-même, et c'est celle-là, la forme d'Ophélia, qui m'intéresse, c'est cette forme... En fait, c'est de l'ordre du zombie, mais on n'est pas dans l'esthétique zombie du tout, quoi, avec la peau verte et le... Mais on est dans un truc de prêtresse hybride, une femme futuriste et aussi une femme apaisée, mais qui est là quand même pour se battre et qui a plus besoin de se faire valider ses idées pour savoir qu'elle veut se battre pour ça, quoi. Et du coup, elle est en même temps très romantique, très tragique, très... Il y a quelque chose de l'ordre du dramatique.
Le personnage d'Ophélia, est-ce que ce serait pour toi une manière de t'affranchir de la masculinité toxique à laquelle la société te forme inconsciemment?
Je pense que dans l'absolu, on pourrait répondre non à cette question, parce que je pense qu'on nous construit tellement, mais à tous les endroits de notre société, de notre école dite républicaine, au coin de la rue, avec une pub, en fait, on nous construit tellement là-dedans que... Ouais, mais en fait, en tant que mec cis, non, je pourrais jamais être à 100% déconstruit là-dessus. Après, je pense qu'Ophélia, c'est juste mon militantisme, il y a toute la face immergée de l'iceberg, parce que ça serait la plus grosse, qui est un endroit très dur, où on rencontre des gens, on discute avec des gens, on prend conscience de choses. Et dans la phase, enfin dans la partie émergée, il y a le drag, il y a ce côté, on va dire, plus détendu et plus festif aussi, et plus créatif. Mais ça répond de la même chose, en fait. Et c'est là où ça devient intéressant, parce que les deux côtés se répondent, forcément. Mais que voilà, c'est un espace qui reste politique, mais qui reste aussi un espace de détente, de fête. Mais ça reste un truc comme ça.
La fête dans le monde LGBT est politique pour toi ?
Elle peut l'être. Elle l'est pas tout le temps. On l'a vu à la Pride de Paris du 26 juin dernier qu'au final, non, on pouvait très bien avoir 3 chars, quelques paillettes et rester totalement dans le cliché, laisser des femmes cis dénigrer les femmes trans en disant qu'elles n'ont rien à foutre dans le féminisme. Donc non. Une fête n'est pas nécessairement politique à partir du moment où les personnes LGBTQIA+ le font. Par contre, à un moment, être LGBTQIA+, c'est un peu born this way. C'est on est ainsi, c'est une identité qu'on ne choisit pas. Par contre, à un moment, on fait le choix d'être queer. Et derrière queer, on va entendre peut-être une identité politique et se saisir de qu'est-ce que notre identité, vue par la société, nous a appris et nous montre à quel point on a une identité qui peut être politique, mais comment on s'en saisit et comment... On peut travailler avec nos sœurs, frères et adelphes dans une idée de se battre pour nos droits à tous, en fait. Je pense que c'est une culture maintenant. C'est, maintenant, c'est plus une culture, en fait, la culture drag, c'est une culture LGBTQIA+, c'est une culture queer, c'est une culture qui se domine de l'intérieur aussi, avec des RuPaul's Drag Race qui ont un drag qui est très canonisé, très féminin, voilà, avec que des mecs, de préférence cis, gays, qui deviennent des femmes féminines. Mais du coup, ça reste une culture entière, quoi. Après, on a l'alternative drag avec... avec du drag très alternatif, qui pose d'autres questions, et c'est hyper intéressant de s'y intéresser. Le capitalisme se saisissant du drag depuis 10 ans, notamment à cause de RuPaul's Drag Race, même si ça permet une ouverture, enfin je veux dire, il y a du positif et du négatif des deux côtés, mais le côté négatif c'est cette capitalisation du drag, on a du coup des codes qui se créent. On imagine un mec, de préférence cis, et qui en plus est gay, qui va juste se mettre du maquillage, se mettre un corset et mettre des fausses fesses pour avoir une silhouette de femme. C'est hyper ok, hein, moi je critique pas du tout, c'est hyper ok de faire ça, mais c'est pas un présupposé. Personnellement, dans mon drag, je peux mettre des corsets, mais ils sont pas là, ils sont là pour évoquer autre chose d'esthétique, ils sont pas là pour me faire une silhouette, je mets pas de fausses fesses, je mets pas de faux seins, et je rejoue pas... des codes esthétiques de maquillage pour... certes, ça va féminiser, mais c'est pas le but non plus. Donc il y a quand même quelque chose de l'ordre du drag queer. Mais personnellement, je me mets dans le drag queen. Mais du coup, voilà. Et c'est là où, pour moi, il intervient le alternative drag. C'est que du coup, il pose d'autres questions et il se saisit d'autres codes esthétiques ou d'autres espaces où exister. Alors, on n'est pas obligé d'exister que sur scène ou que sur les réseaux sociaux, il y a d'autres espaces pour exister. Ça reste politique, ça reste un espace d'expression qui pour moi est réservé à des minorités, donc qui peut être excluant de certaines majorités de manière temporaire tant que notre société est telle qu'elle est. Voilà, il y a un moment où trop de minorités peuvent en avoir besoin et du coup je pousse en tout cas à minima de mon petit niveau toutes les personnes autour de moi à déconstruire ça.
Pendant cette interview avec Ophélia, nous avons discuté un peu plus longtemps sur la sémantique de l'identité queer. Après tout, qu'est-ce que c'est qu'être queer ? Voici ce qu'elle avait à dire sur le sujet.
Pour moi, il y a un moment où soit on est là pour se battre pour ses droits individuels, typiquement moi en tant que mec cis, blanc, gay, bah, je me bats juste pour mes droits en tant que mec gay. Ou un moment, je choisis de me dire, ok, en fait, dans notre société, si moi je n'ai pas de droit, c'est parce qu'à un moment, notre société est normative comme ceci, et qu'en même temps, elle oppresse telle minorité, telle personne, ta, et en fait, ça répond d'un seul et même ennemi qui est la société, et qui est une société hyper normative, et comment je me bats avec mes sœurs, frères et adelphes contre ce système-là, toutes et tous ensemble, en fait. Et c'est là où le mot queer pour moi intervient, et le mot queer et le mot LGBT, enfin. Les lettres LGBT ensemble, pour moi, c'est deux choses complètement distinctes. Parce que LGBT, c'est être. Et le mot queer, c'est devenir. C'est se déconstruire et c'est un autre effort. Et du coup, c'est là où ça devient politique. Et c'est là où, pour moi, en tout cas, dans mon drag, ça devient aussi intéressant.
Mmh. Est-ce que queer, c'est un choix pour toi ?
Ah, c'est une question qui est dure parce que je pense qu'on peut dire que c'est un choix dans la mesure où je choisis de m'abonner à tel ou tel compte Instagram qui va diffuser du contenu, qui va m'aider à m'éduquer. C'est peut-être par choix que j'ai envie de m'éduquer, d'écouter des parcours divers et variés, que je ferme ma gueule dans les moments où je ne suis pas concerné et que je fais l'effort des fois de déconstruire des mini-endroits où je me dis mais non, mais là c'est pas mon espace, c'est l'espace de quelqu'un d'autre. Donc est-ce que c'est un choix ? Oui, parce qu'en fait je le fais consciemment, mais inconsciemment c'est peut-être pas forcément un choix parce que j'en ai besoin, même égoïstement je pense pour me construire et même queer, enfin je pense qu'il y a des personnes qui sont LGBT qui pourront pas devenir queer parce que elles ont pas cette curiosité là, elles ont pas besoin de ça pour se construire elles. Je trouve ça très malheureux.
Ouais, je ressens totalement ce que tu dis par rapport à en fait choisir comment on se construit par opposition à cette norme que nous impose la société, peu importe ce qu'on est et comment on est, ben, la manière dont on est bandé soi et quoi.
C'est ça. Après, tu vois, tu utilises le mot opposition. Je suis pas forcément convaincu qu'il y ait forcément une dichotomie entre notre société et nous. Mais, enfin, j'ai pas envie de reproduire des schémas binaires, en fait. Mais je pense que le tout, c'est toujours de se saisir de questions et aussi de se rendre compte qu'on a toutes et tous des places différentes au vu de notre identité intersectionnelle. Je veux dire, en fait, moi, je me retrouve qu'avec des personnes gays autour de moi. Ouais, on va avoir le même parcours sur certains trucs. Mais en fait, s'il y a un autre gars qui est racisé, et un autre qui est issu de milieux sociaux... plus entre gros guillemets pauvre que moi dans une échelle par rapport au capitalisme, on n'aura pas le même parcours non plus.
Ce qu'on appelle CSP moi quoi.
C'est ça. Et l'idée c'est un peu de créer de la bienveillance. Parce qu'en fait notre société elle nous inculque pas du tout ça. On est dans une société en psychologie, on parle d'attribution causale interne, c'est-à-dire que dès qu'on a une réussite, faut dire que ça vient de soi. On a ce culte le chef d'entreprise qui s'est fait tout seul à partir de rien, ce truc-là, la méritocratie à fond, et en fait, mais notre système éducatif exclut totalement plein de personnes d'un système, on marginalise des gens, on marginalise des communautés, on laisse les médias se mêler à ça après, les politiques qui surfent là-dessus, et la semaine dernière à l'Assemblée nationale, on l'a très bien vu quand on a pu aborder que des sujets qui touchent plus ou moins à la question de l'islam en France, Et en fait, c'est partout comme ça. Et en fait, c'est gros comme une montagne, mais énorme. Et en fait, c'est là où je pense que être queer, c'est se créer c'est une philosophie de pensée, c'est une identité, c'est une manière de vivre, c'est une manière de réfléchir, c'est une manière d'agir aussi au quotidien, en manif. Quand on a des plateformes comme celle-ci, en fait, moi j'ai envie de me saisir de ces plateformes-là. J'ai pas forcément envie de parler de moi, j'ai envie de parler d'autres gens, j'ai envie de parler d'une communauté, j'ai envie de parler de parties de communautés qui sont différentes, j'ai pas envie. J'ai envie de parler de ces personnes-là, pas en leur nom, mais en disant écoutez-les. Écoutez-les, elles ont des choses à dire et elles n'ont pas de plateforme médiatique. C'est ça être queer.
Cet Univox a été réalisé par Thibaut, service civique à Radio Campus Clermont-Ferrand.